en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, chers confrères, Mesdames et Messieurs, je vais vous faire une communication brève et concrète. Ce sujet, en effet, peut être traité sous plusieurs angles, un angle historique, un angle moral ou un angle purement juridique. Alors je m'en tiendrai à ce dernier aspect et limiterai le sujet à la France contemporaine sans m'interdire, le cas échéant, une allusion à telle ou telle législation étrangère. Alors, Monsieur le Président, j'ai légèrement modifié l'intitulé du sujet pour parler de la moralisation de la vie politique et pas de la politique en général, parce que je pense que ça nous aurait emmené peut-être un peu loin. Alors, la méfiance à l'égard des gouvernants est née, me semble-t-il, en tout cas on peut le soutenir, avec la démocratie. Dès lors que le pouvoir n'est plus dévolu par Dieu, l'hérédité et le sacre, il est un mandat confié par le peuple souverain. Et les gouvernants sont donc les mandataires du corps électoral. Et ils doivent être vertueux, car la vertu est regardée comme nécessaire au maintien du lien de confiance qui doit unir les commettants et les préposés, les mandants et les mandataires, les gouvernants et les gouvernés. Or, la conduite des affaires publiques, on le sait depuis longtemps, et même avant que la démocratie ne s'instaure, la conduite des affaires publiques offre des tentations de corruption. Aussi bien, les gouvernants doivent rendre compte à la nation. Et ce principe s'exprime déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, bien qu'on ait dit qu'elle n'avait été conçue que pour poser les conditions de l'épanouissement personnel, de l'épanouissement de l'intérêt individuel, c'est-à-dire la liberté, la sûreté et la propriété privée. En effet, l'article 15 de la Déclaration énonce que la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. Et des textes révolutionnaires postérieurs se montrent plus précis. L'article 31 de la Constitution de l'an 1 dispose que les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais rester impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Et, selon le décret de la Convention du 14 mai 1793, qui a été rappelé par un ancien président du Sénat il y a peu de temps, ce n'est pas notre confrère Poncelet, les représentants du peuple sont à chaque instant comptables à la nation de l'état de leur fortune. Ça indique bien ce que ça veut dire. Il existe donc bien, plus ou moins diffuse, une règle morale applicable à l'homme politique et relative à son rapport à l'argent. Et cette règle morale, on va le voir, a été transposée dans le droit positif. Alors chez nous, comme dans bien d'autres pays démocratique, l'histoire du régime républicain a été marquée par des scandales financiers récurrents mettant en cause des hommes politiques. Je ne les rappellerai pas ici, ce serait trop long. Certains de ces scandales ont fortement marqué l'opinion publique, le trafic des décorations par le gendre de Grévy, l'affaire Stavisky, etc., pour rester dans un passé lointain. Pourtant, notre législation est restée très longtemps dans un état rudimentaire. Elle était constituée pour l'essentiel par la définition d'infractions visant particulièrement les gouvernants, comme la concussion, la corruption passive, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, et beaucoup plus récemment, les infractions aux règles de liberté et d'égalité d'accès des candidats à la commande publique, qui visent plus particulièrement les autorités locales. Mais ces dernières infractions n'ont été définies que récemment, il y a quelques années. Et donc, en face d'un régime qu'on pourrait appeler purement répressif, donc un régime extrêmement libéral, puisque ne sont interdites que ce qui est expressément puni par la loi. Alors à ce régime purement répressif s'ajoutent quelques mesures préventives, comme les incompatibilités, dont l'objet est d'éviter les conflits d'intérêts et d'inciter les gouvernants à ne se consacrer qu'à la recherche de l'intérêt général. Alors à cet égard, on peut citer comme exemple l'incompatibilité très classique, très ancienne, entre la fonction ministérielle et toute activité professionnelle, et l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et l'exercice de fonctions de responsabilité dans des entreprises exerçant une activité contrôlée par l'État, ou dans une entreprise ayant un objet financier et faisant appel à l'épargne publique. Voilà pour deux exemples d'incompatibilité. Enfin, certaines condamnations à des peines criminelles ou délictuelles, même sans aucun lien avec une activité politique, pouvaient entraîner, et peuvent toujours entraîner d'ailleurs, à titre de peine complémentaire, l'inéligibilité de l'auteur de l'infraction, soit de façon temporaire, soit de façon définitive, sauf évidemment relevé de l'incapacité ou intervention d'une loi d'amnistie levant cette inéligibilité. Et ce n'est qu'au cours des dernières décennies, depuis 1988, que la France a perfectionné, si on peut dire, sa législation à des fins préventives pour préserver les membres de la classe politique des tentations qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions. Ce mouvement a été marqué par plusieurs lois successives, 1988, 1990, 1993, 1995, et enfin, tout récemment, l'an dernier, en 2013. C'est donc un processus d'approximation successive. C'est un accouchement assez long, une gestation laborieuse. Ces lois ont poursuivi deux objectifs, contrôler le financement des campagnes électorales et accessoirement des partis politiques, et encadrer le statut personnel des gouvernants en ayant une acception de plus en plus large de la notion de gouvernant. Alors, sans attacher au sondage d'opinion une importance excessive, il est de fait, et je l'ai vérifié en regardant des sondages du CEVIPOF, qui est un institut de sondage proche de, même intégré à la Fondation nationale des sciences politiques, je vois que Jean-Claude Casanova opine, montre, opine dans ce sens, on montre, ces sondages montrent que une méfiance certaine de l'opinion publique se manifeste à l'égard des gouvernants. Alors, cette méfiance indéterminée et plus ou moins diffuse à l'égard du monde politique est cependant moindre à l'égard des hommes politiques qui sont mieux connus. On est moins méfiant à l'égard du maire de sa commune ou à l'égard du député de sa circonscription parce qu'on les connaît, qu'à l'égard de la classe politique dans son ensemble, mais la constance de ces sondages d'opinion est tout de même révélatrice. Et ils traduisent donc un manque de confiance dans la classe politique, et c'est en tout cas le diagnostic que semble avoir posé l'actuel président de la République lorsqu'à la suite de ce qu'on appelait l'affaire Cahuzac, il, qui est dans la mémoire de chacun, c'est pas la peine que j'insiste là-dessus, il a publiquement déclaré qu'il fallait rétablir la confiance par la transparence, c'est-à-dire par l'accès des citoyens à des informations relatives au patrimoine et aux activités et intérêts, non seulement des élus d'ailleurs, mais des principaux responsables publics, même nommés, même fonctionnaires. Ainsi, le président Hollande reprenait un thème qui avait déjà été développé 20 ans auparavant par le Premier ministre de l'époque, Pierre Bérégovoy, qui, dans sa déclaration de politique générale, avait déclaré, et là je le cite, « Dans nos sociétés d'information, les exigences de transparence sont fortes. Si le pays veut retrouver confiance en lui-même, il faut d'abord qu'il retrouve confiance en ceux qui le représentent et en ceux qui le dirigent. » Confiance, transparence, confiance par la transparence, à 20 ans d'intervalle, cette coïncidence mérite d'être relevée. Et alors la France s'est engagée dans une voie qu'avaient emprunté de nombreux États, le Japon, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Belgique et d'autres, assez nombreux, dont sont cependant exclus, c'est assez notable, à ma connaissance, la Grande-Bretagne et surtout l'Allemagne. Ainsi, si restent en vigueur les règles que j'évoquais précédemment, incompatibilité, inéligibilité et bien sûr définition d'infraction relative à des agissements qui peuvent être ceux des hommes politiques, la France est dotée d'un corps de règles préventives, de déclarations préalables ou postérieures à l'élection, soumises à un contrôle de sincérité et partiellement soumises, du fait de la publication de certaines de ces informations, à l'appréciation, au contrôle de l'opinion publique elle-même. Le régime actuel de transparence, puisqu'il faut l'appeler par son nom, de transparence financière de la vie politique, qui est censé assurer la moralisation des mœurs politiques, est le résultat d'une succession d'initiatives sanctionnées à chaque fois par des mesures législatives. Et il m'apparaît nécessaire de les rappeler ici pour vous montrer qu'il s'agit d'un processus long et continu, quitte à paraître fastidieux, mais je n'insisterai pas sur les détails juridiques qui, eux, seraient franchement ennuyeux. Alors la première initiative est revenue au président Mitterrand. Bien sûr, des velléités s'étaient manifestées auparavant, et même peut-être des volontés. Le président Giscard d'Estaing avait formé des vœux en ce sens dès 1974, et en 1978, il avait fortement incité le Premier ministre de l'époque, c'est-à-dire notre regretté confrère Raymond Barre, a déposé un projet de loi de moralisation de la vie politique. Déposé devant le Parlement en 1979, ce projet de loi ne fut jamais inscrit à l'ordre du jour. Ni le gouvernement ni la majorité de l'époque n'ayant montré beaucoup d'enthousiasme à l'égard de ce texte. Et je vois le sourire de Pierre Massot. C'est donc en 1987, lors de la première cohabitation, comme l'on dit, que le président de la République invita fortement, à l'occasion d'une conférence de presse, si ma mémoire est fidèle, le Premier ministre, qui était alors à ce moment-là Jacques Chirac, à prendre une initiative en ce sens. En effet, l'affaire du carrefour du développement, qui avait abouti à des détournements de fonds publics, avait été révélé à l'opinion publique, et cela d'ailleurs dès les premiers jours du gouvernement Chirac, si ma mémoire est encore fidèle, et l'échéance politique des élections présidentielles de 1988 se profilait à l'horizon. Aussi, le président de la République incitait-il fortement le gouvernement à déposer rapidement un projet de loi sur le financement de la vie politique et s'engager à convoquer, si nécessaire, une session extraordinaire du Parlement pour en assurer une adoption rapide, c'est-à-dire avant les élections présidentielles. Alors le Premier ministre Jacques Chirac a réuni les représentants des partis politiques qui étaient représentés au Parlement Il les a convoqués tous à l'hôtel Matignon. Et le secrétaire général du gouvernement que j'étais à l'époque a conservé le souvenir de cette réunion. Et les représentants des partis, majorité comme opposition, se sont engagés sans plus d'enthousiasme qu'en 1979. Se sont engagés dans cette direction et il en est résulté deux lois du 11 mars 1988 qui sont à l'origine de deux innovations qui existent toujours dans nos institutions. C'est la déclaration de patrimoine et le compte de campagne. La déclaration de patrimoine, tous les candidats à l'élection présidentielle doivent remettre sous pli scellé au Conseil constitutionnel une déclaration de patrimoine. Et à l'issue de l'élection, la déclaration du candidat proclamé élu est publiée. À la fin de son mandat, il doit établir une nouvelle déclaration qui est également publiée, ce qui permet à chacun de porter une appréciation sur l'évolution du patrimoine du président au cours de son mandat de 7 ans, aujourd'hui de 5 ans. Je veux dire que cela se passe dans l'indifférence la plus absolue, sauf si un jour, une déclaration de patrimoine d'un président sortant faisait état d'un accroissement considérable de sa fortune, sauf dans cette hypothèse que je crois impossible, pour beaucoup de raisons, ces deux déclarations d'entrée et de sortie sont publiées dans l'indifférence absolue. De même, tous les parlementaires doivent, après leur élection, établir une déclaration de situation patrimoniale qu'à l'époque, ils devaient déclarer sincère sur l'honneur et qu'ils déposaient à l'époque sur le bureau de l'Assemblée dont ils faisaient partie. Et à l'issue de leur mandat, ils devaient établir une autre déclaration, mais aucune publicité n'était donnée à ces documents, aucune publicité d'aucune sorte. Enfin, la même obligation de déclarer son patrimoine était assignée par la loi de 1988 aux membres du gouvernement, aux présidents des exécutifs locaux, conseil régional, conseil général, et maires des communes de plus de 30 000 habitants, mais ces dernières déclarations devaient être faites auprès d'une instance qui était créée par ces lois de 1988, la Commission de la transparence financière de la vie politique, formée du vice-président du Conseil d'État, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, chargé de vérifier la sincérité des déclarations et d'apprécier la variation des situations patrimoniales au cours du temps de l'exercice des pouvoirs. Mais à l'époque, les parlementaires étaient exclus de l'examen par cette commission. Je dirai tout à l'heure un mot de la façon dont elle a fonctionné. L'autre innovation de 1988 est celle du compte de campagne. Pour l'élection du président de la République, chaque candidat doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses exposées en vue de l'élection au cours des 6 mois précédant ce scrutin. Le montant des dépenses est plafonné, celui des dons manuels l'est également, qu'ils émanent des personnes physiques ou de personnes morales. Et c'était à l'époque le Conseil constitutionnel qui était chargé de recevoir les comptes de campagne et le remboursement par l'État d'une partie des dépenses était subordonné à la fois à la remise effective du compte, ce qui est bien le moins, et au respect de la règle de plafonnement des dépenses. Et ce même compte de campagne s'imposait aussi à l'élection des députés, avec des règles de plafonnement des dépenses globales et des contributions des personnes physiques et des personnes morales. Et les comptes de campagne devaient être déposés auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Ces comptes pouvaient être communiqués sur sa demande au Conseil constitutionnel à l'occasion d'un contentieux portant sur l'élection, ainsi, le cas échéant, qu'aux autorités judiciaires. Enfin, la loi de 88... Ce point est intéressant sur le plan des principes, fixer un embryon de statut des partis politiques, qui n'était alors régi que par l'article 4 de la Constitution, c'est-à-dire à peu près rien, La loi énonce que les partis disposent de la personnalité morale, peuvent ester en justice, peuvent acquérir des immeubles, créer et administrer des publications et des instituts de formation. C'est ainsi qu'est donné aux partis politiques un statut un peu supérieur à celui d'une association simplement déclarée. Et ces partis peuvent disposer de l'aide financière de l'État en proportion du nombre de leurs représentants au Parlement. Bien. Alors l'ensemble de ces innovations des lois de 88 n'est pas négligeable. Dans leurs principes, d'ailleurs, elles demeurent en vigueur, mais elles se sont vite révélées insuffisantes. En effet, les campagnes électorales coûtent cher en raison du développement des techniques modernes de communication. Elles se renouvellent souvent aussi. Or, dans le même temps, la décentralisation offrait la possibilité pour certains élus de se procurer quelques facilités financières, notamment auprès des entreprises attributaires de marchés publics. Non pas que les conditions de concurrence, d'accès à la commande publique aient été systématiquement truquées, non. Mais l'entreprise bénéficiaire, l'heureuse élue, était incitée à marquer sa satisfaction par un don généreux au profit du maire ou du parti auquel appartenait le maire. Et ce qui devait arriver arriva. Une nouvelle affaire éclata, l'affaire Urba, qui résultait d'une sorte de centralisation et de redistribution à la suite d'une péréquation de ressources de provenance illicite au profit des représentants d'un parti politique. Il s'agissait en l'occurrence du Parti socialiste. Il fallut donc revenir devant le Parlement et ce fut la loi du 15 janvier 1990 adoptée sous une majorité différente. De cette loi du 15 janvier 1990, l'opinion publique n'a retenu à la vérité que la large amnistie des infractions précédemment commises en matière de financement des campagnes électorales et des partis politiques qu'elle contenait dans son article terminal, de façon pudique. Mais pourtant, cette loi contenait, au-delà de cette mesure qu'on peut considérer comme fâcheuse, du moins par son ampleur, quelques dispositions intéressantes. Elle institue le mandataire financier des candidats aux élections, c'est-à-dire que le compte de campagne est géré par une tierce personne pour le compte du candidat. Ce mandataire financier chargé d'ouvrir et de gérer le compte de campagne. Cette loi pose également de nouvelles règles de plafonnement du montant des dons, et chaque don devant faire l'objet d'un reçu qui pouvait être contrôlé. Cette loi prohibe l'usage de la publicité commerciale à des fins électorales. Elle modifie les règles d'attribution de l'aide allouée par l'État aux partis politiques afin d'en faire bénéficier non seulement les partis politiques qui sont effectivement représentés au Parlement, mais aussi ceux qui ont présenté, même sans succès, des candidats dans un nombre suffisant de circonscriptions afin de mieux tenir compte de la réalité des mouvements politiques qui se manifestent dans le pays et de l'émergence de partis qui ne sont pas encore représentés au Parlement mais qui ont vocation à l'être un jour. Et surtout, elle institue une instance qui existe encore aujourd'hui, qui est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, formée de 9 membres issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, est chargée de contrôler les comptes de campagne. Elle approuve, rectifie ou rejette ces comptes. Le remboursement des dépenses, partiel, des dépenses par l'État est subordonné à l'approbation du compte. Et en cas de dépassement du plafond, le candidat est tenu de verser au Trésor une somme égale au montant du dépassement constaté. Et en cas de rejet du compte, la commission saisit le juge de l'élection, le juge administratif s'il s'agit d'élections locales, et le conseil constitutionnel s'il s'agit des élections nationales. Alors ces nouvelles dispositions n'ont toujours pas suffi. Et la loi du 29 janvier 1993, qui a un objet beaucoup plus large de lutte contre la délinquance financière, revient sur le sujet directement et indirectement. Directement, en ce qu'elle prévoit la publication de la liste des personnes morales qui ont consenti des dons à des candidats ou à des partis politiques et plafonne dans les ressources totales d'un compte l'ensemble des dons des personnes morales. On verra tout à l'heure qu'on a fini par prohiber le don des personnes morales. Indirectement, en posant des règles plus sévères dans la procédure de désignation des délégataires de services publics, en limitant dans le temps la durée des conventions de délégation, en subordonnant le recours à la négociation directe au caractère infructueux de la mise en concurrence, et enfin en soumettant à publicité préalable les ventes de terrains constructibles par les collectivités locales. C'est un but de moralisation. Bien. Ainsi, la loi 93 cherchait à tarir une source de financement illicite au profit des élus locaux. Mais l'évolution n'est toujours pas terminée. La loi du 19 janvier 1995 pose une nouvelle prohibition, à laquelle je faisais allusion il y a un instant. C'est celle de tout don ou de toute prestation gracieuse des personnes morales de droit public ou de droit privé aux candidats. Il n'y a plus de dons de personnes morales depuis la loi de 1984. Enfin, nous en arrivons aux deux lois toutes récentes du 11 octobre 2013. Avec ces deux lois, le législateur abandonne le terrain de la compétition électorale et du financement des campagnes, estimant sans doute avoir fait l'essentiel, et je crois effectivement qu'en ce domaine, l'essentiel a été fait. En revanche, il revient sur le statut des gouvernants, en donnant à ce terme une large acception, puisqu'il englobe non seulement les élus et les ministres, mais aussi les titulaires non élus de certaines hautes fonctions de l'État, par exemple les directeurs d'administration centrale. Il est vrai qu'entre-temps, les deux assemblées du Parlement s'étaient préoccupées de déontologie. En se dotant de déontologues, substantif assez, dont l'usage était jusqu'alors assez peu répandu, des déontologues, un sénateur au Sénat et une personnalité extérieure à l'Assemblée nationale, en encadrant aussi l'activité des groupes de pression dans l'enceinte des assemblées, et parallèlement le précédent président de la République, le président Sarkozy, avait confié au vice-président du Conseil d'État, mon successeur, Jean-Marc Sauvé, la présidence d'une commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, rapport qui fut remis au président au début de 2011. Et puis le président actuel, le président Hollande, a chargé M. Lionel Jospin, dès le mois de juillet 2012, de présider une commission chargée de la rénovation et de la déontologie de la vie publique. Et ce rapport a été remis au président de la République fin 2012. Alors les propositions du rapport Jospin excèdent de très loin notre sujet, mais elles reprennent dans leur principe les propositions du rapport Sauvé sur les préventions des conflits d'intérêts. Et donc la loi organique et la loi ordinaire du 11 octobre 2013 s'inspirent de ces réflexions et propositions. Le législateur revient sur les déclarations de patrimoine, d'abord pour élargir le champ de l'obligation d'en souscrire une, en l'imposant aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du président de la République, aux membres des autorités administratives indépendantes, aux personnes occupant un emploi à la décision du gouvernement et nommées en Conseil des ministres, c'est-à-dire précisément les directeurs d'administration centrale, en tout cas. Ce qui fait que 7000 personnes aujourd'hui, nombre considérable à mes yeux en tout cas, sont soumises à cette obligation. En second lieu, en prévoyant la publication des déclarations de patrimoine des parlementaires et des ministres. En troisième lieu, et surtout en instituant la déclaration d'intérêt portant sur les activités professionnelles actuelles, les activités professionnelles exercées au cours des 5 années précédentes, la participation aux organes dirigeants d'une société au cours des 5 dernières années, les participations financières dans le capital d'une société, les activités professionnelles actuelles du conjoint. Le législateur avait même ajouté les occupations professionnelles des enfants et des parents. Le Conseil continue à considérer que là, on allait un peu loin et qu'on portait atteinte au secret de la vie privée. Le champ de cette obligation déclarative est très large et recouvre celui des déclarations de patrimoine. Et ces déclarations d'intérêt des membres du Parlement et des ministres sont rendues publiques. L'accès aux déclarations d'intérêt des autres personnes sera régi par décret en Conseil d'État. Je pense qu'il y aura un système d'accès médiatisé dans ce domaine. Et dans le même esprit, la loi renforce et précise le régime des incompatibilités. En quatrième lieu, la commission de la transparence, présidée par le vice-président du Conseil d'État, disparaît au profit d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique, composée de 9 membres, est une haute, H majuscule, autorité, A majuscule, pour la transparence, composée là aussi de 9 membres, issus du Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes, et nommée par le président de l'Assemblée et le président, ou nommée par le président de l'Assemblée ou par le président du Sénat. Elle dispose de pouvoirs d'investigation non ne disposait pas sa devancière. Les omissions entachant les déclarations qui doivent lui être soumises font l'objet de sanctions pénales, de sorte que les déclarations qui pouvaient être soupçonnées d'être insincères pourront dorénavant être transmises au parquet aux fins de poursuite de leur auteur. Alors sur ce dernier point, je dois dire que j'approuve la loi de 2013. La Commission pour la transparence financière de la vie politique, et que j'ai présidée pendant 12 ans, était extrêmement désagréable à présider. D'abord parce que, à titre tout à fait personnel, je n'aime pas beaucoup ce côté indiscret et voyeur d'ouvrir les déclarations de patrimoine de personnes qu'on connaît par ailleurs, parce que une longue expérience de la vie publique nous amène à connaître beaucoup de députés, de sénateurs, de ministres. Moi, j'ai horreur de mettre mon nez dans leur compte personnel. Mais surtout, à cause de l'inefficacité du contrôle de la Commission de la transparence. La seule chose que la Commission de la transparence pouvait faire, c'était de prendre la déclaration d'entrée d'une personne, la déclaration de sortie de cette même personne, et de regarder si, compte tenu des revenus qu'on lui prête, il s'agit d'une indemnité parlementaire, on en connaît quand même le montant, il était possible d'avoir connu telle ou telle évolution de patrimoine pendant cette période, selon qu'on est un gestionnaire avisé ou non. Mais il était, et on pouvait évidemment poser des questions à la personne dont on examinait le compte, elle y répondait pas, en général d'ailleurs, elle y répondait, mais une fois qu'on avait ces éléments en main, il était tout à fait difficile de porter une appréciation. Et je dois dire qu'au cours des 12 années où j'ai présidé cette commission, nous avons transmis au parquet de Paris le cas de 5 ou 6 personnes et qu'il ne s'est jamais rien passé. Le parquet n'a jamais fait la moindre diligence. Mais le parquet... Je me tourne vers notre collègue parquetier. Là, oui, je le vois. Oui, avait quand même quelques excuses, puisqu'il n'y avait aucune infraction. Les déclarations mensongères n'étaient assorties d'aucune espèce d'infraction. Par conséquent, le parquet était au moins sur ce plan-là démuni de tout moyen d'action. Il était loisible au parquet s'il avait par ailleurs d'autres éléments d'information sur telle ou telle personne, de faire d'autres diligences. Mais la présidence de cette commission ne m'a pas donné beaucoup de satisfaction intellectuelle ni morale. Par conséquent, qu'on ait donné à la haute autorité de nouvelles compétences, notamment d'avoir accès aux déclarations fiscales, et que notamment le fait de ne pas produire de déclaration ou de produire des déclarations inexactes est puni pénalement, ce qui va maintenant permettre au parquet d'agir, est sans doute une bonne chose. Donc la commission de la transparence maniait un sabre de bois. C'est pas très agréable pour celui qui a ce sabre de bois dans la main. Aujourd'hui, on peut espérer que la haute autorité disposera de moyens plus efficaces. Mais enfin, je plains quand même les 9 membres de cette haute autorité d'examiner à longueur de temps les déclarations de patrimoine et les déclarations d'intérêt de 7000 personnes. Je pense que, comme travaux forcés, on ne peut pas trouver beaucoup mieux. Alors, j'ai bien conscience de vous avoir infligé un très long et fastidieux examen de mécanismes juridiques et encore, croyez bien que je ne suis pas descendu dans les détails. J'en suis resté au principe. Mais c'est très volontairement que j'ai procédé à cet exposé pour vous montrer jusqu'où il faut aller si l'on veut que le droit se substitue à la règle morale qui devrait inspirer le comportement de tout élu, de tout responsable public, et si l'on entend substituer à la seule répression d'agissements illicites un contrôle préventif. Et je suis bien persuadé que des failles, je ne sais pas lesquelles, mais que des failles se révéleront dans cet ensemble complexe de législation sur le financement des campagnes, le financement des partis, les obligations personnelles qui pèsent sur ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la gestion des affaires publiques et à la faveur d'une future affaire financière la plus lointaine possible. Et dans l'émotion, le législateur remettra l'ouvrage sur le chantier et imposera de nouvelles contraintes de transparence. Je crois que c'est inéluctable. D'ores et déjà sont envisagées des obligations déontologiques pour les fonctionnaires du Parlement et les collaborateurs personnels des parlementaires, des dispositions législatives portant sur la déontologie du fonctionnaire sont déposées dans un projet de loi. D'autres sont envisagées sur la prévention des conflits d'intérêts des magistrats, alors qu'ils sont sous la surveillance constante du Conseil supérieur de la magistrature, qui est une institution constitutionnelle. Et j'avoue que je ne perçois pas personnellement l'impérieux besoin de légiférer sur ces points. Et je pense qu'il serait plutôt temps de contester la dictature de la transparence érigée en vertu suprême, non seulement de la vie politique, mais même de toute la vie en société. La transparence est exigeante, comme je viens d'essayer de le montrer, et encore une fois, en restant sur le terrain des principes, mais non pas de la réglementation minutieuse dans laquelle même les juristes les plus avertis peuvent se tromper. La transparence suppose des procédures et des formalités contrôlées par, en quelque sorte, des professionnels de la transparence. Les membres de la haute autorité vont devenir des professionnels de la transparence. Mais ces derniers sont-ils irréprochables ? Sans doute, mais on n'en est pas sûr. Et on retrouve l'interrogation permanente « quis custodet custodem ». Si la transparence devient une fin en soi, on exigera de chaque responsable qu'il se justifie de toute décision qu'il s'apprête à prendre, et cela non point du point de vue de la pertinence du but qu'il s'est assigné, mais en prouvant qu'il ne peut en retirer lui-même aucun avantage, même indirect, ou que ses proches ne peuvent en tirer aucun bénéfice. Un régime simplement répressif se borne à punir des manquements constatés à une règle préexistante. Un régime préventif tend vers le soupçon et l'inquisition. Par là même, il n'est pas particulièrement apte à établir un lien de confiance. Et si le bon peuple pensait que lorsqu'on prend tant de mesures à l'égard des hommes politiques, c'est qu'ils le méritent bien, est-on certain que le législateur aura atteint l'objectif poursuivi ? En effet, les arguments du soupçon sont beaucoup plus crédibles, malheureusement, sont beaucoup plus crédibles et plus efficaces que ceux qui tendent à établir la confiance. Et au fond, sauf peut-être dans les premières années de la Ve République, sous la présidence du général de Gaulle, notre pays ne s'est jamais départi d'une certaine méfiance, on pourrait même dire d'une méfiance certaine, à l'égard des gouvernants. Et par conséquent, je crois que la moralisation de la vie politique a encore de beaux jours devant elle.
Vous avez terminé sur une parole qui, d'un certain côté, peut revêtir un sens optimiste. Nous ne serons pas sans avoir rien à faire. Et de l'autre côté, peut apparaître comme empreinte d'un très grand pessimisme. Vous allez maintenant entendre une série de questions ou d'observations. Et je donne d'abord la parole à M. Dorcival.
Merci, M. le Président. Chers confrères et chers Renaud, la conclusion était de cet exposé était absolument magnifique parce qu'elle elle n'était pas supposée par l'exposé, qui n'a jamais été plus exhaustif que celui que tu nous as présenté. Et précisément, c'est un peu la remarque que je ferai à l'issue de cette conclusion, c'est que on demande, sous le contrôle de l'opinion publique, ça veut dire, en fait, sous le contrôle des sondages d'opinion, à une classe politique de bien vouloir établir des lois pour moraliser sa vie politique. Or, ce que l'on constate, c'est deux choses. Lorsqu'un élu mis en cause, est autorisé par son parti à se représenter devant les électeurs, quand il est rare que les électeurs en question le condamnent pour les motifs qui auraient pu le faire écarter de cette présentation par son parti. Je veux dire, pour être plus clair, qu'il est fréquent qu'un élu mis en cause soit réélu par ses électeurs qui lui pardonnent son comportement. Ça s'est produit pas mal de fois. Ce qui veut dire que, et ça me conduit à la deuxième remarque qui d'une certaine façon rejoint la conclusion de cet exposé, c'est que plus on a eu de lois de moralisation, moins cela a consolidé la confiance de l'opinion publique et des électeurs dans leurs dirigeants. J'en veux pour preuve la dernière enquête du CEVIPOF que tu as citée tout à l'heure, qui confirme que jamais l'opinion publique n'a exprimé une telle défiance à l'égard de ses dirigeants qu'aujourd'hui, alors même que celle-ci, cette classe politique, n'a été l'objet d'autant de législations pour contrôler ses comportements. Merci beaucoup.
Merci. Monsieur Dorcival. Monsieur le secrétaire perpétuel.
Je poserai une question très brève, si vous le permettez, parce qu'il y a énormément de questions. Ma question est à deux registres, si je puis dire. D'abord, est-ce que la question de la moralisation de la vie politique se résume à la question de la transparence ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres considérations, d'actualité d'ailleurs, à évoquer ? Deuxième point, parce que, me semble-t-il, dans d'autres pays, dans d'autres démocraties, ces questions parallèles, qui ne sont pas seulement celles de la transparence financière, jouent un rôle très important dans la vie politique et dans la moralisation de la vie politique. En d'autres termes, le moindre écart de comportement d'un responsable politique très important, y compris qui touchera sa vie privée, a des conséquences considérables dans les pays anglo-saxons qu'il n'a pas en France. Et donc je me posais la question de savoir si, au fond, cette option extrêmement financière, tournant autour de la transparence, du patrimoine, des conflits d'intérêts, n'est pas une spécialité française. C'est une question que je pose très, très, très innocemment, parce que, je n'ai pas la réponse.
Merci. Monsieur Lévite.
Merci, Monsieur le Président, et merci à Renaud de ce brillant exposé. Je voulais poursuivre sur les comparaisons internationales et en particulier sur les États-Unis. Il y a deux dimensions qui me frappent aux États-Unis qui n'existent pas à ce point en France. La première, c'est la masse financière en cause. Aux États-Unis, c'est un débat permanent avec la Cour suprême régulièrement saisie qui légifère, mais les masses financières en cause sont absolument considérables au point que chaque élu est obligé de consacrer une part considérable de son temps à ce qu'on appelle le fundraising, la levée d'argent, ce qui n'est pas forcément un gage de progrès démocratique. La deuxième différence, c'est qu'il est possible d'attaquer ses adversaires, sans même vérifier si c'est vrai ou faux, à travers des campagnes de publicité dans tous les médias. Et là encore, je trouve que notre démocratie européenne, française, de ce point de vue-là, de ce double point de vue, est plutôt assez exemplaire. J'aimerais avoir l'avis de Renaud sur ce point. Merci.
Monsieur Pébrot.
Oui, j'étais également intéressé par l'internationalisation, si je puis dire, de l'analyse. Les problèmes de corruption sont des problèmes aigus dans les pays en développement aujourd'hui, et les pays avancés, pendant longtemps, ont pensé qu'ils n'étaient pas, si je puis dire, sujets au même type de problèmes. Et donc, cela m'intéresserait de savoir si vous avez des informations sur la façon dont les choses se passent dans les grands pays de l'Union européenne, et non pas seulement, si je puis dire, dans ces pays émergents. Et deuxièmement, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de la question, d'une façon générale, de la morale dans la vie politique. C'est-à-dire, oui, nous avons évoqué un peu ce sujet la dernière fois. Est-ce que c'est un sujet qui, au-delà de la simple question financière, a jamais été évoqué dans les instances que vous avez dirigées ?
Monsieur Delvolvé.
Monsieur le Président, nous sommes tous pour la morale en politique. Mais on peut reconnaître que, dans certains cas, dans l'histoire, de grands exemples de personnages qui ont eu une morale, notamment financière, discutable, n'en ont pas moins contribué à la réalisation de grands objectifs politiques, Richelieu, Mazarin, etc.
Talleyrand
et Levis, appuyés sur le bras du crime, a pu quand même contribuer à la restauration d'une situation politique stable pour quelques années, en tout cas.
Il aime bien parler.
Vous avez parlé essentiellement, et c'est le problème principal, effectivement, de la morale financière. Mais la morale ne comporte pas seulement des règles en matière financière. Je ne parle pas de la morale sexuelle, encore que ses relations avec la vie politique soient illustrées au cours de l'histoire, et peut-être récemment de manière particulièrement éclatante. Mais en dehors de la morale financière, de la morale sexuelle, il y a des aspects de la morale qui concernent le mensonge, la tromperie. Le mensonge en politique existe, et il n'y a pas de loi qui le censure, si ce n'est le cas échéant, la loi électorale. Et les procédés malhonnêtes, on en connaît en France et aux États-Unis. Les écoutes téléphoniques faites du centre de l'État en violation de toute règle sur ce genre de procédé. Et Watergate, cette utilisation de procédés particulièrement frauduleux, scandaleux, qui était une manière immorale de faire de la vie politique.
Ça dépasse complètement.
Nous n'avons pas de règles en la matière, si ce n'est des règles pénales, qui peuvent éventuellement conduire à punir celui qui a menti, qui a employé des procédés frauduleux. Cela peut paraître suffisant. En revanche, nous avons une abondance, et votre exposé l'a parfaitement mis en évidence, une avalanche de textes qui, chaque fois qu'un scandale apparaît, conduit le Parlement à adopter un nouveau texte, On n'en finit pas à établir des règles de déclaration préalable, des règles de contrôle, des règles de sanction, d'incompatibilité, d'inéligibilité et patati et patata, et avec la création d'un certain nombre de commissions qui sont chargées de contrôler et de veiller, etc. En réalité, ce qui manque pour assurer la moralisation de la vie politique, c'est essentiellement un esprit public. Un esprit public de ceux qui font de la vie politique. Un esprit public de ceux qui contrôlent, qui élisent les dirigeants politiques avec l'ensemble des règles que vous nous avez exposées parfaitement. Nous sommes passés de la République la vraie à une République de pions.
Merci. Monsieur Bertrand Collot.
Il me semble qu'il y a, dans le fond, deux problèmes assez différents. L'un qui est le financement des campagnes électorales et le financement de la politique, et d'autre part, l'honnêteté personnelle du personnel politique. Alors, Jean-David Lévy évoquait les États-Unis. Il est clair qu'aux États-Unis, il y a une corruption fondamentale de la vie politique par le financement des campagnes. Je considère, moi, personnellement, que les États-Unis sont un pays corrompu. Car il est clair qu'il faut dépenser des millions pour se faire élire et que les intérêts économiques, surtout depuis la dernière décision de la Cour suprême, où heureusement notre membre associé, Stephen Breyer, était du côté de la minorité et donc n'a pas approuvé cette décision qui donne aux sociétés le même droit d'expression que ceux d'une personne, et les autorise à dépenser sans limite, au service non pas d'un candidat, nuance, mais d'une idée. Permet notamment au groupe Koch de financer l'extrême droite républicaine dans des conditions extraordinaires, qui d'ailleurs, heureusement, ne suffiront peut-être pas à assurer son succès électoral. Il y a quand même une morale, finalement, là-dedans. Mais enfin, c'est tout à fait anormal. Là, je trouve que le système français fonctionne bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'abus, mais qu'on ait pu refuser les comptes de campagne d'un candidat président de la République, enfin ancien président de la République, bon, et que du coup, son parti était obligé de récupérer 10 millions d'euros que l'État ne lui verserait pas, je trouve que ça me prouve que le système marche. Et donc, sur ce plan-là, moi, je trouve que le financement public par l'État, la limitation des dons. Alors, bon, il y a certainement encore quelques petits trucs. Il m'est arrivé, en tant qu'entreprise, mais c'est il y a longtemps, de me voir proposer un transit par une fondation étrangère pour arriver à financer un parti politique, chose que, bien entendu, j'ai refusée. Mais c'était il y a déjà quelques temps, et je ne suis même pas sûr qu'actuellement, ça soit vraiment possible. Alors, le deuxième problème, c'est l'honnêteté personnelle des hommes et des femmes politiques. Bon, je trouve que, dans l'ensemble, la tradition française dans ce domaine-là n'est pas très mauvaise. Et que, bon, alors, c'est bien, on connaissait un président du Conseil de la 4e République pour lequel donner un meuble de prix à son épouse était une façon d'attirer son attention. On connaît un sénateur qui est en conseil d'un certain nombre d'entreprises, soutient ouvertement le point de vue des entreprises. Mais ça va pas très loin. Et dans l'ensemble, le personnel politique national ne me paraît pas être extrêmement sujet à des aspects de corruption. Là où ça se corse, c'est clairement dans les collectivités locales. Et je veux dire qu'en tant qu'entreprise, le seul cas où nous avons trouvé des activités qui étaient tellement difficiles à faire en respectant nos principes que nous en sommes sortis, c'était des activités qui introduisait des rapports sous forme de marché de bas niveau, mais très répétitif, avec les collectivités locales. Alors ce qui me frappe là, au-delà des remarques auxquelles j'adhère sur le fait que ça peut entraîner des dérives, c'est que notre système extrêmement centralisé, sauf, alors 7000 personnes c'est considérable, mais les élus locaux, il y en a beaucoup plus que ça. Donc notre système extrêmement centralisé, à mon avis, passe à côté de la plaque par rapport à la réalité du risque qui est probablement beaucoup plus local que ça. Alors je terminerai par une observation qui me frappe et qui m'inquiète. C'est que comme le soupçon d'influence est devenu prévalent, je pense qu'actuellement un ministre, et on pense bien sûr à des exemples connus, mais un ministre qui veut décider quelque chose contre l'avis de son administration, parce que souvent le jugement politique n'est pas le jugement technique, et il est normal que de temps en temps un ministre veuille faire quelque chose qui n'est pas la préférence de son administration. Un ministre qui est dans cette situation-là, actuellement, est dans une position très délicate. Parce qu'il est à peu près sûr qu'après son départ du ministère, il y aura une enquête, un rapport de la Cour des comptes, une enquête de quelque chose, etc. Et qu'on trouvera toujours dans ses décisions le fait qu'il n'a pas respecté l'article 22, alinéa 5, d'un règlement, ou que, etc. Et que on tirera de cela que s'il l'a fait, c'est pour des motifs impurs. Et que, surtout si ce ministre a le malheur d'être proche, enfin de fréquenter des milieux, des chefs d'entreprise, des milieux d'affaires, on est à peu près sûr de trouver des tas de choses. Et que finalement, ça risque d'entraîner des personnels politiques qui soit se tient extrêmement loin de tout ce qui est économique, et ça, c'est pas certainement ce qu'on souhaite, soit on est réduit à suivre le point de vue juridique et technique de ces administrations en toutes circonstances.
Merci. Monsieur Mazot.
Merci, Monsieur le Président. Je voulais dire à Renaud que ce survol sur la législation est tout à fait remarquable. Je dirais que c'est une remarque dans l'ensemble. Je crois que c'est une bonne législation. Certes, il a fallu plusieurs années, notamment depuis 88, tu l'as très bien rappelé tout à l'heure. Encore que je précise que Pompidou, le tout premier, avait souhaité une législation en la matière. Il avait d'ailleurs demandé à cette époque qu'un certain nombre de députés qui étaient dans des conseils d'administration de très grands groupes de démissionner, ce qui avait été fait. Sur la loi de 88, effectivement, c'est une des raisons, je pense, pour laquelle Chirac s'est lancé très rapidement dans cette affaire, car Pompidou lui-même, dans le dernier volume qui est sorti de son fils, Ed Roussel, rappelle son inquiétude, effectivement, de l'argent dans la politique. Sur l'évolution de ces textes, pour moi, je retiens, sans doute parce que j'en ai rapporté un certain nombre à l'époque comme président de la Commission des lois, l'interdiction, effectivement, aux personnes morales d'aider soit des candidats, soit les partis politiques. Je rappelle ce détail parce que ça avait été très, très difficile. Car au Parlement, il y a eu de véritables batailles dans la mesure où ce texte de 95 avait déjà été dans le texte de 93, mais qu'il avait été rejeté. Ceci étant, je retiens surtout ta conclusion, je ne fais que des remarques, partageant comme toi cette dictature de la transparence. Parce qu'effectivement, on jette l'opprobre sur les élus, mais maintenant sur les fonctionnaires, du moins les hauts fonctionnaires dans la fonction publique. Et ça ne s'arrêtera pas là. Pour des raisons qui sont souvent idéologiques, on voit hélas où on va. Et là, je rejoins ce que disait tout à l'heure, peut-être d'une façon un peu sévère, monsieur le professeur, notre confrère Delvolvé. En réalité, on peut se poser un certain nombre de questions. Mais c'est une remarque.
Merci. Mes chers confrères,
le conférencier a parfaitement, ciblé son intervention. Alors, je vous serais reconnaissant de cibler également parfaitement les questions, parce que nous avons encore 7 questions. Monsieur Ménard.
Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai beaucoup admiré, évidemment, la solidité et la précision de cette communication tout à fait remarquable. Je dirais simplement, au risque de passer pour un esprit compliqué, que je n'ai pas vu où était la morale dans tout cela. Il était beaucoup question de droit, mais jamais vraiment question de morale. Et je crois que quand la morale a à intervenir dans la vie politique, elle le fait sans demander la permission du droit. Elle le fait directement. Mais pour cela, il faut qu'elle ait de la force, et elle n'en a pas. Alors que le droit a de la force.
Parce qu'il y a qui parle. Le droit est le corset.
Exactement.
Le droit est le corset.
Donc, je pense que en changeant le titre de votre exposé, Vous avez éliminé le problème que j'aurais souhaité entendre traiter, celui de la morale dans la politique.
Oui.
Alors, attendons pour la suite.
On sera la prochaine.
Merci. Monsieur Casanova.
Merci, Monsieur le Président. Je partage entièrement, et je suis admiratif de l'exposé de notre ami Renaud, je partage son scepticisme, et je voudrais lui soumettre deux questions, une générale et l'autre particulière. La question générale est la suivante. Nous ne savons pas, il n'y a pas d'études empiriques, il n'y a pas de certitude scientifique, nous ne savons pas si le monde politique est plus corrompu aujourd'hui qu'il ne l'était à la fin du XIXe siècle. J'ai lu ligne après ligne les travaux parlementaires de Panama. Eh bien, le président du Sénat aurait dû terminer en prison. La mort l'a sauvé. Il était ancien élève de l'école normale supérieure et agrégé de philosophie, comme vous, cher président. Mais je rappelle que, comment s'appelait-il l'auteur de la loi sur le divorce ? Naquet. Naquet prenait 50% sur chaque chèque. C'est une commission quand même importante, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, j'en sais rien. Personne n'en sait rien. Il y a eu d'immenses scandales en Angleterre, au moment du Parti libéral. Il y a eu d'immenses scandales aux États-Unis. La certitude empirique n'existe pas. En revanche, nous avons une certitude empirique qui est que le degré de confiance dans les hommes politiques décroît partout. Il décroît en Suède autant qu'en Italie. C'est-à-dire que si on prend les pentes, on a là-dessus des enquêtes depuis 40 ans, le degré de confiance dans les hommes politiques dans toutes les démocraties occidentales décroît. On part de très haut en Suède, ils n'ont fait aucune guerre européenne, donc ils sont très moraux. Et donc on décroît en Suède et on décroît en Italie, et la pente est la même partout. Donc il y a quand même un problème des démocraties qui est le degré de confiance dans les hommes politiques, parce qu'il est très difficile de faire vivre les deux idées ensemble. Et donc je suis sceptique comme Renaud, mais quand même un tout petit peu inquiet sur la perspective. Et alors ma question particulière est au fond la question de la force des sanctions, parce que ce qui me frappe en France, c'est qu'il y a des domaines qu'on n'ose pas toucher. Beaucoup ont fait allusion au problème des collectivités locales. Je suis persuadé qu'il y a un problème des collectivités locales que je mesure simplement dans le changement de composition des professions dans les conseils généraux. Les conseils généraux peuplés de notaires, d'avocats, de médecins, etc., c'est fini. En revanche, je prends un conseil général d'un département de montagne, je constate qu'il y a un nombre croissant de salariés des syndicats d'économie mixte. Salariés des syndicats d'économie mixte, ça veut dire des gens qui dépendent des communes et du département. C'est drôle qu'ils se fassent élire. Ils vont être élus là où on distribue des subventions qui vont venir chez eux. Je constate dans d'autres conseils généraux que je connais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de travaux publics, c'est-à-dire de gens qui réparent les routes, etc., directement ou indirectement, quand c'est pas l'un, c'est la femme, etc., etc. Il y a un vrai problème, que notre collègue, notre confrère Collomb y a fait allusion, il y a un vrai problème des élus locaux. J'avais dit ça à Seguin qui m'avait dit non, que les élus locaux français étaient particulièrement. J'ai des doutes à ce point de vue-là, compte tenu de l'importance de l'argent public qui est distribué. Et puis alors le problème de la sévérité de la sanction, en France, je le trouve un tout petit peu inquiétant. En Angleterre, malgré tout, dans l'affaire Profumo, qui n'était pas grand-chose, mais enfin quand même, il a disparu de la vie politique anglaise. C'est-à-dire que quand la sanction existe, on disparaît de la vie politique. Or, en France, on a vu un maire député qui fait un serment devant un tribunal, et puis qui est réélu. C'est impensable en Angleterre ou aux États-Unis. Il y a de la corruption aux États-Unis et en Angleterre comme ailleurs. Mais au moins, quand le corrompu est sanctionné, il disparaît de la vie politique. Or, on voit quand même disparaître l'idée que quand un tribunal condamne, normalement, l'inéligibilité devrait suivre. Enfin, l'exclusion de la vie politique est la moindre des choses qui devrait suivre d'une sanction minime. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que on peut rester sceptique sur la transparence, etc., mais qu'on pourrait quand même augmenter le degré de sévérité des sanctions de façon à prémunir le monde politique de trop de dérives et au moins à le purifier parfois.
Merci, Monsieur Cotte.
Merci, Monsieur le Président. Ce ne sont pas des questions, je suis désolé, que je poserai à Renaud de Noix de Saint-Marc, mais j'aurais voulu, comme il a souhaité être concret, l'être également et compléter peut-être votre information pour vous permettre de mieux réfléchir sur ces sujets encore. Alors, deux observations. Je ne suis pas un politologue. Je ne suis pas un spécialiste de sociologie politique, mais j'ai eu l'occasion d'observer dans des fonctions antérieures. Je ne voudrais non plus froisser personne, car je sais que dans cette Assemblée, un certain nombre de confrères ont exercé ou exercent encore des responsabilités politiques, et qu'ils l'ont fait et qu'ils continuent à le faire avec énormément de conscience. Deux observations. Un constat. Le constat, c'est que lorsque les lois s'accumulent, c'est qu'il y a un problème. Les millefeuilles législatifs ne sont jamais le signe d'une bonne santé. Et là, nous sommes face à un millefeuille législatif monumental, qui donne bonne conscience, mais qui, à mon avis, ne résout pas beaucoup de problèmes. Alors maintenant, quelques souvenirs. Le hasard fait que j'étais directeur des affaires criminelles et des grâces entre 1984 et mai 1990, que j'étais procureur de la République de Paris entre septembre 1990 et la fin de l'année 1995, et que pendant ces périodes-là, Renaud de Doit-de-Saint-Marc l'a rappelé tout à l'heure, nous avons lu, commenté l'affaire du Carrefour du Développement, affaire Urba, etc., etc., etc. Bien. Chacun est conscient que la prévention serait la meilleure des choses. La commission de Simone Rosès, Bérégovoy, 93, la commission Jean-Marc Sauvé, la commission Jospin prônent d'abord la prévention. Mais pour que la prévention fonctionne, soit une réalité, encore faut-il que tous ceux qui sont concernés par ces questions-là jouent bien le jeu. La répression. Renaud de Saint-Marc nous a dit qu'il avait été très insatisfait de la présidence d'une commission qui lui donnait le sentiment de détenir un sabre de bois. Et il n'avait pas tout à fait tort, parce que si tant est que la répression soit la meilleure des choses, pour pouvoir réprimer, encore faut-il connaître les faits, les avoir portés à sa connaissance. Or, là, le mot est sans doute pas très bien choisi, mais enfin, l'omerta en ce domaine est totale, et pardonnez-moi de vous le dire, la myopie, souvent, pas de tous, mais d'un certain nombre de politiques, est importante. On s'intéresse à ce qui se passe dans le camp opposé, on ferme rapidement les yeux sur ce qui se passe dans son propre camp, quitte à tout voir revenir en boomerang dans les années qui suivent. Et le malheur fait qu'un procureur de la République, à l'époque, n'était saisi de faits susceptibles de faire l'objet de poursuites que lorsqu'il y avait une rupture politique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une rupture politique ? C'est une alternance. C'est soit juste avant, soit juste après, et les déballages commencent, et les lettres anonymes arrivent au parquet. Ou pire encore, lorsque c'est une rupture à l'intérieur d'un même parti, et que, vous avez compris ce dont je veux parler, deux membres d'un même parti sont en même temps candidats à une élection présidentielle. Alors là, l'information déferle. Vous le saviez d'ailleurs, je n'avais pas besoin de vous le dire, mais ça me paraissait important de vous le rappeler. Alors, bon, lorsque l'on arrive à poursuivre, une nouvelle fois si tant est que la répression soit la meilleure des choses, on condamne de temps en temps, ou on a condamné de temps en temps, et François Dorcival, Jean-Claude Casanova viennent de le dire, le hasard fabuleux fait qu'en France, c'est au contraire un ticket pour une réélection. C'est ahurissant, mais c'est comme ça. Nous en avons plusieurs exemples. Il n'y a pas que le faux témoignage dans le nord de la France. Donc, moi, je suis assez pessimiste. Hein. Je ne vous le cache pas. Je ne suis pas un fanatique de la transparence, quoique ça a quand même du bon. Ça permet de s'auto-réguler soi-même. Parce que même dans la classe politique, je le pense, la peur du gendarme joue toujours un petit peu. Je ne parle pas là de l'homme politique pris individuellement, hein, pour reprendre une intervention qui a précédé. Je pense surtout de l'homme politique pris dans un parti, pris dans un financement de campagne, pris dans une globalité. Mais voilà, dans le cadre de nos réflexions, je pense qu'il n'était peut-être pas tout à fait inutile que je vous donne un éclairage très concret de quelqu'un qui a beaucoup souffert de se sentir lui aussi très impuissant à certaines époques, une nouvelle fois si c'était la répression qui était la meilleure des choses. Merci.
Merci. Monsieur Soutou.
Monsieur le Président, je vous remercie. Je serai très bref parce que je voudrais simplement aller dans le sens de ce qui a déjà été dit par certains, en particulier par nos confrères Delvolvé et Mazot. Si on poursuit la symptôte de ce que vous nous avez décrit, qui est une prolifération à peu près cancéreuse des soupçons, etc., on en arrive à une seule conclusion logique. Je me passe place sur le plan juridique, mais sur le plan historique et social, c'est l'abolition de tout secteur privé, toute propriété privée. En Union soviétique, comme chacun sait, il n'y avait aucune corruption, bien entendu, puisqu'il n'y avait aucune possibilité de corruption. Moyennant quoi, nous savons tous que les régimes communistes étaient parmi les plus corrompus que l'histoire ait connu. Nous avons donc là un problème épistémologique fondamental. Mais je vous remercie pour votre exposé.
Merci. Monsieur Le Villain.
Oui.
compris, cher Renaud de Watzamar, j'ai admiré votre exposé, puis en plus, vous avez une sympathie qui vient de loin, puisque nous avons été étudiants ensemble. Alors, une constatation oui, je crois, à la conférence Olivier, nous étions ensemble. Une constatation sur la question de l'opinion publique. Jean Ménard vous a brutalement posé une question insidieuse et pascalienne que je repose encore plus brutalement. Est-ce que la politique peut être morale ? Et non pas doit-elle ? Ça, nous savons. Et la deuxième est une constatation, c'est que dans un pays que je connais bien, qui est un peu ma seconde patrie, qui s'appelle l'Italie, il y a quand même un personnage d'une popularité extraordinaire, condamné, surcondamné, jamais entraîné. Je suis passé encore dimanche devant sa fabuleuse propriété sur le Corso. Le drapeau est là. Il y a encore des gardes. Il s'appelle Berlusconi. Et il n'y a rien à faire. Tout Italien, dans son cœur intime, rêve d'être Berlusconi. Tout en le condamnant, naturellement, immo corde. Ça pose le problème que vous avez évoqué très bien, celui de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'effectivement, on condamne, mais en même temps, on se dit « quel talent ». Et c'est là le problème, le talent de la démoralisation ou de l'immoralité, soyons clairs, dans la vie politique, comme l'a fait Berlusconi, qui est un talent assez inouï en Europe, à mon avis en tout cas. Voilà, ce sont mes deux questions, ou une constatation que vous voulez.
Merci. Monsieur Leroy Ladurie.
Oui, alors, fortune de Mazarin, 30 millions de livres, Richelieu, 20 millions... Colbert, 10 millions.
Ça a diminué.
Est-ce que c'était une autre époque ? Je sais pas.
Merci. Monsieur Poncelet.
Oui, moi, comme chacun d'entre nous, j'ai entendu effectivement, bien sûr, notre confrère Benoît Saint-Marc. On parle, bien sûr, de moralisation financière, moralisation politique. Mais on ne parle pas assez souvent de moralisation de l'information. De l'information. Et les médias ont une puissance qui peuvent parfois modifier la réalité. Il serait peut-être, bien sûr, temps maintenant de savoir si, disposant d'un média, on peut dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Et je signale que la plupart des médias sont la propriété des plus grands capitalistes de mon pays, par ailleurs. Si vous pouvez m'en citer un, je vous dirai tout de suite quel est le propriétaire. Donc là, moi, j'ai vu, par les médias, ne pas conduire quelqu'un à renoncer, n'est-ce pas, à s'engager dans la voie qu'il avait choisie. Il paraît que, on entend dire que, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'information qui déferle de tout côté, et en fin de compte, eh bien, c'était une opération montée. C'était une désinformation. Je crois que dans notre pays, bien souvent, on a plus de désinformation que de l'information. Et moi, je verse des crédits importants au Parlement, je vote pour la liberté de l'information. Est-ce que la liberté de l'information, c'est la liberté de calomnier, la liberté de désinformer ? Où est la moralisation là-dedans ? Où est-elle ? Avant de faire de la moralisation aux autres, faisons-la nous-mêmes, pour ceux qui sont, bien sûr, les maîtres de l'information.
Merci. Monsieur Rogister.
Merci, Monsieur le Président. J'avais une question à poser qui vient de l'expérience britannique. Est-ce qu'en France, on a élargi le nombre des principes de la moralité en politique pour inclure le scandale qui résulte, selon certains, de l'écart qui règne entre la rémunération des législateurs et le salaire moyen de ce qu'on aurait appelé le petit peuple au XVIIIe siècle. En Angleterre, cela existe très fortement, ce sentiment. Et la solution qui a été apportée en Grande-Bretagne a rendu la situation pire qu'elle n'était, parce que le salaire des députés étant indexé, était autrefois fixé par le gouvernement ou par le Parlement lui-même. Alors, afin d'éviter le problème que poserait l'indexation des salaires, on a décidé que dorénavant, la décision de fixer, de faire l'indexation et de déterminer le pourcentage de l'indexation serait faite par un fonctionnaire. Le résultat a été que cette année, ce fonctionnaire a décidé d'augmenter les salaires des députés de 10%, ce qui a causé un immense scandale en Angleterre, qui a permis aux députés de dire « mais c'est pas moi qui ai décidé ça, je vais le prendre, je ne le prendrai pas, mais la décision n'a pas été prise par moi ». Et ça a permis au gouvernement de se désintéresser de la chose. Alors, est-ce que vous avez ce même problème en France de l'élargissement des principes de moralité en politique pour inclure ces écarts perçus entre les salaires des législateurs de l'État et les salaires, surtout en temps de crise?
Merci, je crois n'avoir oublié personne. Monsieur le Président, votre belle conférence a eu aussi un mérite. Elle a, pour employer un vocabulaire que vous emploieriez ailleurs, elle a levé beaucoup de questions. Vous allez maintenant...
Plus qu'à tirer.
Vous allez maintenant les régler, si je puis dire.
Je vais essayer, mais je ne suis pas sûr...
Mais attention.
Ah, vous en avez une encore?
En 20 minutes. Non, je m'abstiens. Vous avez 20 minutes.
Non, mais je vais être certainement plus bref. Alors, sur la conception du sujet, la moralisation de la vie politique, je l'ai volontairement limité à cela pour répondre à notre confrère Ménard. D'abord, la moralisation, ça c'était dans l'intitulé, ça traduit un phénomène. Ça veut traduire l'idée d'un progrès vers plus de morale. Moralisation, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on part d'un état peu moral et qu'on tend vers un état plus moral ou plus conforme à des règles de simple probité, n'est-ce pas ? Je n'ai pas voulu traiter morale et politique d'une façon générale, mais si notre confrère Ménard le souhaite, l'année prochaine, on pourra revenir là-dessus. Alors, dans le sujet tel que je l'ai conçu, effectivement, j'aurais pu évoquer la moralisation de l'information politique, comme l'a soulevé le président Poncelet. Je reconnais que je n'y ai pas pensé. C'est un sujet extrêmement redoutable et difficile. Mais il y a effectivement un sujet de l'information politique et de sa morale. En revanche, je ne pense pas avoir fait un exposé lacunaire en ne parlant pas des indemnités parlementaires. Je ne crois pas du tout que ce soit un sujet en France. Et bien entendu, on peut toujours faire de la démagogie facile sur ce sujet. Mais la façon dont les parlementaires sont indemnisés de l'exercice de leur mandat me semble être résolu de façon très satisfaisante, très modérée et en même temps très convenable en France. Donc je crois que ça, on pouvait l'écarter. Alors si maintenant, sans répondre individuellement à chacun, même si peut-être j'essaierai de le faire, il me semble que il y a plus de sujets sur le statut personnel de l'homme politique ou du responsable proche de l'homme politique que sur la façon dont on a traité le financement des campagnes et des partis. Alors je crois qu'effectivement, on est en face d'une réglementation compliquée, pas tellement celle des partis, mais celle des campagnes. Elle est compliquée. Et bien des candidats aux élections, de temps en temps, se trompent ou commettent quelques imprudences qui leur sont ensuite reprochées par la commission des financements politiques. Mais, bon, le diable est dans les détails, comme toujours. Mais l'idée même de cette législation me semble avoir conduit à un progrès de la moralisation de la vie politique en faisant obstacle à ce qu'on aille chercher de l'argent de façon un peu illicite, notamment auprès des entreprises qui, on le sait, avaient été autrefois très fortement sollicitées. Donc je crois que sur le financement des campagnes et le financement public des partis politiques, qui est quand même une innovation de la loi de 88, je crois qu'il y a dans l'ensemble un accord. Et c'était le point de vue de Pierre Mazeaud. Alors, sur le statut personnel, Effectivement, on constate, comme l'a dit Jean-Claude Casanova, non seulement en France, j'avoue que je n'avais regardé les enquêtes d'opinion du CEVIPOF en ce qui concerne notre pays, mais on constate de façon générale une sorte de discrédit de la classe politique dans l'opinion publique, à travers l'Europe en tout cas, ce qui est un phénomène inquiétant. Et cela même dans des pays où traditionnellement des règles déontologiques sont très anciennes. La Suède a adopté ses premières règles de déontologie au XVIIIe siècle, 1750 à peu près. Donc, dans un pays comme la Suède, un pays rigoureux où ce contrôle existe depuis longtemps, il y a un discrédit de la classe politique. Pour répondre à Michel Pébreau, c'est effectivement la Suède qui a été le premier pays à organiser un contrôle statutaire, en quelque sorte, de l'élu. Je crois toutes raisons de penser avec un certain succès, mais qui n'empêche pas certains discrédits de la classe de la classe politique en général. L'existence d'une législation ne veut pas forcément dire que la législation soit appliquée. Parce que l'Italie, malheureusement, a connu quelques scandales politiques. Or, l'Italie a une législation assez élaborée dans ce domaine-là. Donc il ne faut pas tirer trop de conclusions de l'examen des législations. Le problème des élus locaux est revenu souvent. Il ne faut pas perdre de vue qu'au moins jusqu'à l'adoption d'une éventuelle loi sur le non-cumul des mandats, les élus locaux et les élus nationaux sont parfois les mêmes. Hein. Bon. Mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus du côté des élus locaux ou des élus nationaux en leur qualité d'élus local qu'on trouve le plus de tentations. Et notamment avec la commande publique, les marchés publics et les délégations de services publics, pour employer le mot moderne. C'est là qu'il y a à l'heure actuelle le plus de difficultés. Alors c'est ce qui explique que le législateur de 2013 se soit montré si exigeant à l'égard des déclarations de patrimoine et des déclarations d'intérêt des élus et des élus nationaux et des élus locaux, communes de 30 000 habitants. Je vous ai fait grâce du détail. La loi ordinaire détaille de façon minutieuse tous les éléments que la déclaration doit contenir. C'est donc de ce côté-là qu'effectivement, aujourd'hui, l'effort apporté est très franchement, ça ne me paraît pas illégitime, même si cela peut être considéré comme toujours comme blessant par ceux qui n'ont rien à se reprocher et comme exagérément vétilleux pour le juriste qui observe ça de l'extérieur et qui est innocent comme l'enfant qui vient de naître. Alors il y a d'autres aspects effectivement de la morale en politique. Je n'ai pas évoqué par exemple le lobbying où j'y ai fait une simple allusion. Il est vrai que le phénomène du groupe de pression s'est beaucoup développé en France ces dernières années, je crois, en suivant l'exemple européen. Il y a des pays d'Europe dans lesquels le phénomène de la pression, du lobbying, était beaucoup plus ancien et beaucoup plus ouvert qu'en France. Et dans les institutions européennes, le lobbying se fait à visage découvert. À Bruxelles, les grands groupes ou les grands syndicats professionnels ont une plaque à leur nom, une belle plaque en cuivre, n'est-ce pas ? C'est le groupe de pression de ceci ou de cela. Et ils ont un accès ouvert, officiel, auprès de la Commission, notamment, auprès du Conseil des ministres et du Parlement. Je connais moins bien le fonctionnement du Parlement européen que du Parlement français. Et chez nous, au contraire, ce phénomène était discret, souterrain, il a tendance à devenir plus ouvert. Et maintenant, les lobbyistes ont leur carte de visite et ont accès aux assemblées, à tel point d'ailleurs que les présidents des deux assemblées ont pris des mesures pour... et le président Poncelet, notamment, en son temps, pour que ces lobbyistes se présentent de façon officielle avec leur nom, le groupe qu'ils représentent, que leur entrée dans l'enceinte du Palais du Luxembourg ou dans l'enceinte du Palais Bourbon soit notée, leur ordre de sortie, etc. On a fait des efforts dans ce domaine. Mais j'avoue que je connais... pas bien de l'intérieur, ce phénomène, parce que je n'ai jamais été lobbyiste ni l'objet de lobbyisme. Mais c'est effectivement un aspect du sujet que j'ai volontairement, que je n'ai fait qu'effleurer. Si, pour revenir à la question que posait Jean-David Lévit, je crois qu'effectivement, les règles de financement de la vie politique en France aboutissent à de meilleurs résultats que ce qui se passe aux États-Unis, où la levée d'argent, des moyens considérables sont nécessaires. Les levées d'argent aboutissent quand même à des connivences qui peuvent être regardées comme critiquables. Alors le mensonge, les écoutes téléphoniques, la morale personnelle, effectivement, mais je crois que ça échappe encore. Les écoutes téléphoniques... Il y a tout de même un embryon de législation dans ce domaine. Mais que faire pénétrer la morale individuelle dans l'esprit des gens me paraît être un objet inaccessible par la loi. Quelles sont les questions importantes que j'oublie ? Je crois avoir indirectement répondu à la question de Xavier Darcos. Voilà, si un intervenant est non satisfait de mes réponses, il peut relever la main, mais je crois avoir à peu près répondu à l'essentiel des questions posées de façon un peu synthétique.
Monsieur le Président, vous avez nourri et animé une fort belle séance. Je vous en remercie beaucoup et je remercie tous les confrères très nombreux qui sont intervenus aujourd'hui et tous les autres qui ont été très attentifs à tout ce qui a été dit. Je me réjouis de votre maîtrise du temps puisque nous sommes libres à 5h-20. Je vous souhaite donc de bien poursuivre cet après-midi et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'écoute de la conférence de M. Casanova. Voilà, merci et bravo encore.